Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
On se sent créateur de possibles parce qu'on fait partie de ces nouvelles options, ces nouvelles possibilités qu'on offre aux gens de consommer différemment. Et on l'est par l'alimentation et par la consommation en règle générale parce qu'on se veut supermarché. Donc en fait, on trouvera à la fois des aliments et des produits de tous les jours comme dans un supermarché. Donc on se sent effectivement dans les nouvelles possibilités qui s'offrent à nous.
Alors moi, mon métier, c'est enseignant-chercheur. Donc franchement, si un chercheur et un enseignant n'a pas envie de changer le monde, il faut qu'il change de travail.
Moi, je vois l'innovation aussi par rapport au mode de prise de décision. En créant la coopérative, là, on est capable, parce qu'on est quand même beaucoup, et on est capable de prendre des décisions tous ensemble et de monter un projet qui a du sens, qui nous parle, et qu'on arrive à le faire tous ensemble.
Qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui t'a donné envie véritablement, qu'est-ce qui a été le déclic qui t'a donné envie de donner du temps pour des alternatives comme ça, là qui s'avèrent sociales, de partage, de lien social? Qu'est-ce qui a changé en toi qui t'a mené vers tout ça?
Il n'y a pas grand-chose qui a changé en moi. En fait, j'ai été éduquée par des parents très, très militants. J'ai eu la chance de recevoir une éducation assez humaniste et empreinte de solidarité, de volonté de dénoncer des situations. Voilà, j'ai des parents qui sont tous les deux très, enfin qui sont en plein de valeurs de ce type-là, et donc j'ai toujours été très très concernée par le problème du mal logement, notamment. En venant vivre à Rennes, j'ai constaté qu'ici il y avait beaucoup d'animaux. J'adore les animaux. J'ai cherché des moyens de répondre à ce besoin-là, à ces problématiques-là, et ça s'est venu assez naturellement ensuite de créer Gamelle Pleine. Pour ça.
Je dirais que faire confiance en... Alors faire déjà, par ce qu'on a déjà fait et ce qu'on met en place au quotidien dans l'école et autour de nous. Et surtout faire confiance aux jeunes et leur dire que on est là pour faire avec eux et pour leur transmettre ces convictions qu'on a et cette envie en fait de pouvoir faire évoluer les choses.
Vous avez écouté Urar Copette et Max Ramsey avec le titre Maman, la grève, barre et moi.
Nos premiers invités sont Nora et Gwenaël de Brésipote. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors, c'est une coopérative, ça a changé de nom plusieurs fois, hein. C'est Brésicop plutôt, et ça va ouvrir aussi très prochainement, peut-être. Ça fait un moment qu'on suit en tout cas ce projet-là, ici à Rennes et ici sur les ondes de Syllab tout simplement. Le principe, c'est de faire un supermarché coopératif, donc d'impliquer les gens pour aussi consommer différemment, mieux, peut-être voire moins cher. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne concrètement?
Alors oui, du coup, l'association Brésipote va ouvrir le supermarché qui s'appelle Brésicop, donc on n'a pas eu 10 000 noms. Et du coup, concrètement, c'est coopératif et participatif. Donc chaque personne qui veut acheter des produits dans le magasin sera aussi le propriétaire de ce magasin. Donc tous les coopérateurs sont propriétaires et bénévoles. Donc donnent 3 heures de leur temps par mois. Voilà.
Et alors, en échange de ces 3 heures, comment ça fonctionne? L'idée, c'est que chacun puisse être aussi impliqué dans les décisions qui sont prises?
Oui, donc chacun est en fait décisionnaire à l'intérieur déjà de l'association et plus tard de la coopérative, parce qu'en étant coopérateur, on aura des parts sociales et on sera tous propriétaires et donc décisionnaires des décisions qui se prendront.
C'est quelque chose qui a le vent en poupe en ce moment. Comment ça s'explique? Est-ce qu'il y a d'autres modèles sur lesquels vous êtes appuyé pour créer ce magasin?
Nous, l'idée première, c'était un film qui est passé, qui s'appelle Food Cop, et qui parle du projet qui est né à Brooklyn dans les années 70 aux États-Unis. Ce projet, il est arrivé en France il y a quelques années, il s'appelle La Louve. Et aujourd'hui, La Louve a fait plein de petits bébés en France. Il y a une cinquantaine de projets qui se montent, et dont le nôtre, Brésicop.
Vous organisez très régulièrement des réunions publiques, justement pour essayer d'avoir du monde avec vous. Donc le projet est de gestation assez lente, ce qui est normal. Il y a beaucoup de choses à faire. Vous en êtes où à l'heure actuelle?
Alors à l'heure actuelle, on est près de 600 adhérents en moins de 2 ans. Donc belle progression. On fait effectivement des réunions publiques tous les 15 jours. Et d'ailleurs, je vous invite à la prochaine, ce jeudi prochain, à la Pimuette à Champy. Voilà. Mais il faut se tenir informé sur le site internet, page Facebook. Mais voilà, on est près de 600 adhérents aujourd'hui.
Et c'est souvent quasiment complet, ces réunions-là. J'ai souvent vu que c'était presque trop tard pour s'inscrire ou pour venir vous voir. Donc ça marche vraiment très bien.
Ça marche vraiment très bien. Après, aujourd'hui, on est sans inscription. Et donc, tout le monde est libre de venir et on n'a pas forcément de maximum. Voilà, les réunions qui se tiennent dans les bars, etc., on est 10-20 personnes. Et ensuite, le 11 octobre, on fait une grande réunion publique où on pourra être une cinquantaine largement, voilà, sans inscription.
Comment est-ce qu'on explique qu'à Rennes, ça fonctionne particulièrement bien, ce genre de concept? Pourquoi est-ce qu'il y avait autant de demandes, si ça a autant de succès?
Comment se fait-il qu'à Rennes ça fonctionne? Je crois qu'on peut le voir déjà aujourd'hui, la fête des possibles, quand on voit ce qu'organise Alternatiba, c'est qu'il y a plein de gens qui ont envie de changement, en fait, et que ça fait déjà des années qu'il y a des choses qui se passent à Rennes, quoi. On ne fait que suivre une lignée de ce qui existe déjà, en fait.
Et si on est dans le très concret, justement, imaginons ce supermarché coopératif du futur, comment ça va se dérouler concrètement? Quel type de produits on va y trouver? Pourquoi? Quelle éthique il y a derrière tout ça?
Donc au sein du supermarché, on part du principe qu'on retrouvera tous les produits que nous, on souhaite avoir à l'intérieur. Après, aujourd'hui, on est plutôt parti sur des produits locaux, frais et pas que. Ça veut dire qu'on trouvera les mêmes produits qu'en supermarché classique. Voilà.
Luego con que se lee, hay un poco más, dilo, hay con Homero.
On poursuit avec nos différents créateurs de possibles, avec l'école démocratique de Brocéliande, dans la personne d'Alex. Bonjour à toi.
Bonjour.
Alex, ton rôle à toi, c'est de faire un peu la communication autour de cette école, hein, si j'ai bien compris, mais pas seulement, parce que c'est vraiment un travail d'équipe de longue haleine qui, depuis des mois, vous a nécessité beaucoup de travail bénévole pour la plupart du temps. Et ça y est, l'ouverture de l'école est effective. Ça se passe comment, cette rentrée? Ça fait quoi quand ça se concrétise?
Eh bien, on passe là concrètement de la théorie à la pratique. Puisque pendant 2 ans et demi, on a travaillé sur ce projet, on a fait beaucoup de recherches, on a été en lien avec des écoles ouvertes, on a participé à des forums avec des porteurs de rassemblées sous l'association EDEC, donc qui est le Mouvement National pour l'Enseignement Démocratique. Et voilà, ça y est, enfin, nous y voilà. Après 2 ans et demi, on a commencé donc le 5 juin pendant 5 semaines avec une partie des jeunes membres de l'école qui avaient entre donc, 3 et 16 ans. Et on a repris début septembre à 28 jeunes qui ont entre 3 et 17 ans.
Ça y est, une belle rentrée pour l'école Graines de Sens. Vous êtes situé pas du tout loin de Rennes, hein, c'est à Muel. Donc c'est possible aussi pour vous, Rennes, de faire scolariser vos enfants dans ce type d'école. Tu le disais, c'est bien sûr apprendre des méthodes, c'est comprendre énormément de choses, aller à tous ces forums. C'est
aussi d'un temps de transition pour réapprendre de nouveaux codes, pour considérer l'adulte différemment aussi. Puisque on n'est plus sur une transmission verticale, mais sur un fonctionnement complètement horizontal. Donc on est là sur les premières semaines à essayer de pouvoir transmettre ce fonctionnement. On y va à tâtons.
Et ça passe par des instances concrètes de décision collective ?
Exactement. Les deux piliers de l'école sont le conseil d'école et le conseil de justice. Donc le conseil d'école est ouvert sur la base du volontariat à tous les membres de l'école, enfants ou adultes. Et c'est un lieu de discussion et de décision collective où chacun peut apporter ses idées, ses envies, ses besoins, qui sont discutés, débattus et soumis au vote à tous les membres à part égale, enfants et adultes. Et donc toutes les règles sont votées collectivement. Et de fait, tous les membres sont garants de ces règles-là. Et le Conseil de justice, c'est l'organe qui permet de s'assurer du respect de ces règles-là et de faire du rappel à la règle. Pour pouvoir amener vers une autonomie en fait, du collectif et un respect de chacun, un respect de la liberté de chacun.
Alors dans cette école, il y a plus d'enfants que d'adultes. Justement, ça doit leur faire bizarre quand ils disent que s'ils prennent une décision collectivement ensemble, ils peuvent renverser cette espèce de corps qu'on voit comme un corps enseignant habituellement dans l'institution.
Et complètement. Mais alors, ce qui est dans les faits, encore une fois, puisqu'on est très jeune, après là, trois semaines d'ouverture après septembre, c'est pas encore quelque chose qui est bien intégré. Ils ont un peu ce questionnement de se dire mais est-ce qu'on a vraiment le droit ? Voilà, sachant qu'il n'y a pas d'interdiction de poser. Donc le droit, il est possible, suivant des protocoles collectifs, mais ils sont en effet possibles.
Parce que votre idée, c'est vraiment de faire confiance. Mais est-ce que justement, c'est facile pour cet enfant de l'acquérir, cette confiance-là, notamment quand il vient du système plus traditionnel ?
Bah, c'est compliqué. Et en fait, ce qui est, je pense, d'autant plus compliqué, c'est de, pour un enfant, de pouvoir aller puiser en lui-même sur ses propres envies. Puisque, par différents biais, qu'ils soient éducatifs familiaux ou éducatifs scolaires, on coupe petit à petit l'enfant de ses propres envies, de ses propres enthousiasmes. Et nous, bien au contraire, on a pour vocation de cultiver et de faire grandir ces enthousiasmes-là. Pour pouvoir donner une énergie créatrice à chacun qui soit la plus grande possible.
Et pour ça, concrètement, il faut aussi mettre des outils entre les mains de tout ce collectif-là. Alors, ça passe pas mal par du don, j'ai ouï dire, d'un vieux piano récupéré, par exemple. Des instruments de musique peuvent être récupérés comme ça, mis à disposition. Un parc informatique, ça peut être ça. Les gens peuvent aussi faire des dons quand ils ont des choses comme ça.
Exactement. Voilà, pour nous, l'objectif dans l'école, en fait, c'est de créer un terreau fertile. Et plus ce terreau va être fertile, plus les jeunes vont pouvoir faire parler leur créativité, mener à bien leurs projets. Donc il y a une base de matériel, de liste de matériel qui est sur notre site internet et qui est mise à jour régulièrement. Et après, il peut y avoir aussi, de façon plus ponctuelle, des appels à dons de matériel sur des demandes précises des jeunes pour des projets.
Alors là, on parle de choses physiques, mais il y a aussi l'impalpable, le savoir qu'on peut transmettre. Vous avez un dispositif d'arbre de compétences un peu dans lequel les jeunes peuvent aussi aller puiser. Imaginons, je sais faire un four à pain, et bien je le dis. Et le jour où les jeunes se disent, tiens, j'ai envie de faire mon pain moi-même, ils peuvent puiser là-dedans aussi.
Exactement. Voilà, l'arbre des compétences. Donc c'est un formulaire qui est alors sur notre stand ou sinon sur notre site internet où chaque personne qui a des compétences, quelles qu'elles soient, et tout est compétence puisqu'il n'y a aucune limite dans l'école, il n'y a aucune limite à ce que les jeunes peuvent demander, au sujet auquel ils peuvent s'intéresser. Donc voilà, en remplissant ce formulaire, il est mis à disposition dans un registre dans l'école aux jeunes. Et en fonction de leurs besoins, ils vont aller consulter ce registre et contacter directement les personnes pour organiser sur place à l'école ou dans des entreprises de la transmission de savoir.
Ouais, ça c'est assez dingue quand même. C'est eux qui organisent aussi. Donc attendez-vous à vous faire appeler par peut-être un enfant de 5 ans qui va vous expliquer comment ça peut se passer et tout ça, quoi.
Exactement.
Ça c'est incroyable. Donc cet arbre de compétences, n'hésitez pas à aller le trouver. Alors je pense, je vais parler pour toi Alex, forcément, enfin je vais te demander, forcément tu ne pourras parler que pour toi. Il y a une volonté d'humain quand on va vers ce genre de projet. Comment ça se passe concrètement, humainement, ça doit être assez dingue cette histoire.
Alors humainement, il se passe beaucoup de choses. Il se passe un énorme lâcher prise pour ma part de notre modèle éducatif. Puisque ça suppose aussi de déconstruire beaucoup de choses sur lesquelles on a été construit. Alors après, tout dépend d'où on vient individuellement. Mais pour ma part, ça me demande quotidiennement de déconstruire énormément de choses, de faire confiance, et qui plus est, de faire confiance à des enfants, ce qui n'est pas forcément dans nos pratiques en tant qu'adultes aujourd'hui. C'est-à-dire que, se dire que l'enfant sait ce qui est bon pour lui, et que s'il fait quelque chose, c'est que c'est bon pour lui. Voilà, donc ça induit ça aussi, faire cette confiance. Et aussi, beaucoup se remettre en question, et se remettre en question face à des enfants, encore une fois. Et voilà, c'est des choses qui humainement, sont très riches et intéressantes, mais des fois déstabilisantes aussi.
Cet enfant qui ne connaîtra peut-être pas la date de la mort de Charlemagne, moi de toute façon je l'ai déjà oublié, mais qui saura peut-être reconnaître les plantes comestibles et puis en tout cas s'épanouir. Est-ce que tu as des exemples comme ça que tu as vu d'enfants qui par contre épousaient vraiment cette philosophie-là et s'épanouissaient devant toi ? Tu as un exemple en tête peut-être ?
Alors J'en ai plusieurs, mais oui, d'un membre là aujourd'hui de l'école qui, lui, j'allais dire, a peut-être un peu triché par rapport aux autres puisqu'il n'est jamais allé à l'école et que du coup, il a pu expérimenter depuis tout petit cette liberté, cette autonomie et avoir la liberté de s'intéresser au sujet qui l'intéressait. Mais voilà, ce jeune qui a aujourd'hui 11 ans et qui a un savoir impressionnant autour de la physique nucléaire. Et de la programmation en robotique. Donc voilà, ce sont ces sujets de prédilection. Et en fait, grâce à cet enthousiasme, il va puiser sans cesse dans ces sujets-là.
Avec Charlotte, tout de suite, bonjour à toi.
Bonjour Romain.
Toi, tu viens de l'association Gamelle Plaine, une asso qu'on connaît bien. Moi, je la connais bien, en tout cas, habitant à Sainte-Anne. Et de toute façon, si on habite dans le centre-ville, on vous connaît forcément. Ouais. Vous, votre association, c'est d'aider les personnes en difficulté sociale, mais avec un angle un peu particulier, celui de leurs animaux.
C'est ça.
Comment est-ce que vous avez choisi pourquoi est-ce que c'est si pertinent de travailler via cet angle-là?
Faut savoir qu'il y a à Rennes beaucoup, beaucoup de personnes accompagnées d'animaux. Et... ces personnes-là ont plus de difficultés que les autres à accéder aux structures sociales. Donc, ou à vouloir s'y rendre parce que l'animal les freine dans l'accès. Donc nous, on a pour objectif de les amener à s'y rendre en mettant à disposition dans les structures basse-seuil de la ville des croquettes pour nourrir leurs compagnons, des soins vétérinaires, des séances d'éducation canine, séances d'ostéopathie animale aussi. Et tout ça dans l'objectif de les faire se déplacer pour eux-mêmes, parce que dans ces structures-là, ils vont trouver également des prestations de première nécessité qui vont les aider. Et pour pouvoir y aller, il faut avoir une sacrée motivation, et leur animal, c'est leur motivation de tous les jours.
Et justement, revenons peut-être là-dessus sur le fait que ce soit la motivation de tous les jours, le rapport entre l'animal et les personnes qui sont à la rue, en tout cas avec ces animaux-là, il est hyper fort aussi, il est hyper intense.
Oui, c'est un peu leur raison de se lever le matin. Enfin, c'est une grande généralité de dire ça, mais effectivement, l'animal leur apporte beaucoup de réconfort au quotidien et surtout la présence permanente, puisqu'ils ne se séparent jamais. L'animal, ça leur donne aussi des perspectives. Des rendez-vous pour les soins ou pour d'autres événements de la vie de l'animal. Ça permet aussi à la personne de se faire des agendas, de créer du lien social dans la rue quand les personnes les abordent pour caresser le chien ou pour discuter. Beaucoup de gens sont très attendris par la présence d'un animal, donc vont plus spontanément voir les personnes. Donc pour toutes ces raisons-là, on souhaite les aider à maintenir leur animal en bonne santé et le plus longtemps auprès d'eux. Pour faire une pierre de coup, de les amener à se rendre dans les structures pour s'aider eux-mêmes.
Parce que vous, quand vous venez, je ne sais pas si vous appelez ça des maraudes, mais c'est un peu le même principe en tout cas, c'est aussi un moyen de créer de la discussion, du lien autour de voilà, cette roulotte un peu, je pourrais dire, qui arrive là. C'est un moyen de discuter aussi, de créer quelque chose.
Mais quand on arrive sur un spot, on propose de prime abord de donner une gamelle de croquettes à l'animal. À ce moment-là, c'est là que le lien se crée avec l'humain. Et on va parler quelques minutes de l'animal, voir comment il se porte, quels sont les besoins, si c'est un chiot, est-ce qu'il a été correctement sevré, de quels besoins il a. Voilà. Et puis très rapidement, on arrive aussi à aborder l'humain face à ses problématiques, à essayer de trouver des solutions pour l'aider, lui, que ce soit au niveau de la santé, au niveau du besoin de manger, des vêtements. Et là, on rentre en contact avec le maître. Et donc voilà, c'est à ça que servent nos maraudes.
Alors, au sein de votre association, sur quel type de compétences ou de motivation, en tout cas, vous vous appuyez pour réussir à mener cette action-là ?
Bah, la motivation, c'est sensiblement la même pour chaque bénévole entrant. Hein, c'est la volonté d'aider. Ne sachant pas comment entrer en contact, hein, ça peut être très impressionnant aussi d'aller discuter spontanément tout seul avec quelqu'un qui semble en errance. C'est vrai que dans le cadre de nos maraudes, les bénévoles sont très surpris souvent de l'accueil qui leur est réservé, parce qu'ils ne pensaient pas que c'était aussi chaleureux. Et aussi bienvenu d'aller discuter de cette façon-là avec des personnes qui sont SDF, qui sont dans une grande précarité. Et puis, la compétence qu'on demande, en gros, c'est la volonté d'aider, quoi, tout simplement.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.